VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Bion à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire de cette édition du mardi 8 août 2023, la junte au Niger dit non aux offres de dialogue de la CEDEAO de l'Union africaine après des discussions difficiles avec une émissaire américaine en visite inopinée à Niamey. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken somme le groupe Wagner de ne pas profiter de l'instabilité provoquée par le coup d'État au Niger. En Guinée-Bissau, début de cohabitation après la rentrée parlementaire. En Centrafrique, une nouvelle constitution ouvre la porte à un nouveau mandat du président Faustin Touadéra.
Nous accueillons avec fierté et sérénité les résultats qui viennent d'être donnés par l'autorité nationale des élections et nous sommes heureux de voir que le peuple centrafricain a opté massivement pour le projet de la nouvelle constitution.
Réaction des Centrafricains à suivre dans la partie magazine. Au Soudan, les ONG craignent des épidémies en raison des milliers de cadavres qui jonchent les rues. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Une émissaire américaine a eu des discussions difficiles à Niamey avec les militaires auteurs du coup d'État. Les putschistes ont bloqué la venue d'une mission de la CEDEAO qui devait se rendre aujourd'hui au Niger. Les derniers développements avec Yacouba Ouédraogo.
L'envoyé des États-Unis, la sous-secrétaire d'État par intérim Victoria Nuland, est repartie de Niamey sans avoir vu ni le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le président renversé Mohamed Bazoum. La haute responsable de la diplomatie américaine a rencontré le général Moussa Salahou Barmou, nouveau chef d'état-major de l'armée, et d'autres responsables.
These conversations were extremely frank and at times quite difficult.
Ces discussions ont été très franches et parfois très difficiles, car une fois de plus, nous faisons pression en faveur d'une solution négociée.
It was not easy to get traction there. They are quite.
Il n'a pas été facile d'obtenir des résultats. Ils sont très fermes sur la façon dont ils veulent procéder et cela n'est pas conforme à la constitution du Niger. Là encore, nous avons été très francs sur les enjeux.
Quelques heures après l'échec de cette visite inopinée, les militaires ont bloqué une mission de la CEDEAO à l'approche d'un sommet qui se tient jeudi. Dans une lettre, les putschistes ont déclaré que la colère de l'opinion publique provoquée par les sanctions de la CEDEAO signifiait que la sécurité de la délégation pouvait être menacée. La CEDEAO a cherché à envoyer une délégation à Niamey mardi avant le second sommet extraordinaire de jeudi à Abuja, la capitale nigériane. L'Union africaine comptait envoyer une délégation conjointe avec la CEDEAO et les Nations unies ce mardi au Niger, mais selon l'hebdomadaire français Jeune Afrique, aucune autorisation n'a été délivrée par la junte qui a fermé l'espace aérien. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a renchéri que la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre cette situation. C'est la démarche de la CEDEAO, c'est notre démarche et nous soutenons les efforts de la CEDEAO pour établir l'ordre constitutionnel.
Et le président du Nigeria, Bola Tinubu, à la tête de la CEDEAO, estime que la diplomatie est la meilleure voie à suivre pour résoudre la crise au Niger, a annoncé aujourd'hui à la presse son porte-parole, Ajuri Njelale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken met en garde la Russie contre l'exploitation par le groupe Wagner de la situation au Niger. Il a prévenu que les paramilitaires russes ne devraient pas profiter de l'instabilité dans le pays et dont le Mali, son voisin, est déjà un partenaire de Moscou. Les précisions de John Lindon.
Dans une interview accordée à la BBC, M. Blinken doute que le groupe Wagner ait comploté l'éviction par l'armée nigérienne le 26 juillet du président élu Mohamed Bazoum. « Je pense que ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer au Niger n'a pas été instigé par la Russie ou par Wagner, mais ils ont essayé d'en tirer profit », a déclaré Anthony Blinken. Chaque fois que le groupe Wagner s'est rendu dans un pays, la mort, la destruction et l'exploitation ont suivi, a-t-il ajouté. Wagner s'est associé à des pays africains, notamment le Mali et la République centrafricaine, ce qui a donné lieu à de nombreuses accusations d'abus de la part de groupes de défense des droits et de gouvernements occidentaux. En visite lundi au Niger, Victoria Nuland, l'adjointe intérimaire d'Anthony Blinken, a déclaré que les dirigeants militaires nigériens comprennent bien les risques d'un partenariat avec Wagner.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, le groupe État islamique a revendiqué une attaque au cours de laquelle 16 soldats maliens ont été tués, selon lui, dans la région de Menaka, dans le nord-est du pays, la semaine passée. Les autorités maliennes gardent le silence depuis le 3 août et les premières informations faisant état de la mort de nombreux soldats dans une embuscade près de Menaka. Le groupe État islamique indique que ces combattants ont tendu une embuscade donc à ce convoi de l'armée malienne roulant en direction du Niger. Le président de Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Embalo, a nommé au poste de premier ministre Geraldo Martins, un responsable de la coalition qui a remporté les récentes législatives sous la bannière du parti historique PAIGC. Le point avec Deli Diko.
L'ancien ministre des Finances, Geraldo Martins, devient premier ministre. Il est vice-président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, la principale composante de la coalition PAI-Terra-Ranka. La présidence a annoncé peu avant sa nomination la démission avec effet immédiat du gouvernement de Nuno Gomes Nabiam. La coalition PAI-Terra-Ranka a obtenu en juin la majorité absolue de 54 sièges à l'Assemblée nationale, imposant une cohabitation au président Embalo. Elle a ainsi proposé la désignation de Geraldo Martins à M. Embalo, dont le parti, le MADEM G15, n'a remporté que 29 sièges. Cette large défaite est imputée, selon certains observateurs, à des dissensions internes et à la chute du prix de la noix de cajou, une source de revenus importante pour la population. La Guinée-Bissau est en butte à une instabilité chronique depuis son indépendance du Portugal en 1974. Il y a eu une succession de coups d'État et de tentatives de coups d'État, dont la dernière remonte à février 2022.
L'armée soudanaise a intensifié aujourd'hui ses efforts pour progresser dans Khartoum, donnant lieu à des affrontements parmi les plus violents depuis le début, en avril dernier, d'un conflit avec une faction militaire rivale qui a accentué la crise humanitaire dans le pays. Cela dit, les combats entre l'armée et les paramilitaires depuis près de 4 mois ont laissé derrière eux des milliers de cadavres en décomposition qui font craindre des risques d'épidémie dans ce pays, alerte l'ONG Save the Children. Jacques Aristide.
Des milliers de cadavres se décomposent dans les rues de Khartoum alors que les morgues sont saturées et font face à des coupures de courant, souligne Save the Children dans un communiqué publié aujourd'hui. La guerre opposant l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a déjà fait plus de 3 900 morts, selon l'ONG Akled, et plus de 4 millions de déplacés et réfugiés, d'après un bilan fourni par l'ONU ce mardi. L'impossibilité d'offrir des funérailles dignes à ceux qui meurent augmente la souffrance des familles à Khartoum, affirme Bachid Kamal Eldin Hamid, le directeur du département santé de Save the Children. Sur les 89 principaux hôpitaux de la capitale, 71 sont hors service et ceux encore opérationnels sont souvent la cible d'attaques ou de pillages. Depuis des mois, les ONG martèlent que le temps presse car les eaux stagnantes de la saison des pluies favorisent les épidémies allant du paludisme au choléra en passant par la dengue. L'OMS indique que des cas de choléra et de rougeole ont été détectés dans différentes régions du Soudan.
En République démocratique du Congo, au moins 4 personnes sont mortes ce mardi dans un incendie survenu dans un marché fréquenté dans la commune de Lemba à Kinshasa. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit a été causé par un camion de transport de carburant qui a cogné un poteau électrique avant de finir sa course au bord d'un caniveau. La Syrie a prolongé de 3 mois l'autorisation donnée aux Nations Unies d'acheminer de l'aide humanitaire via 2 postes frontières turcs à annoncé aujourd'hui la porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Nous nous félicitons vivement que le gouvernement syrien ait prolongé jusqu'au 13 novembre l'autorisation d'utiliser les postes frontières de Bab al-Salam et d'Al-Rae, a déclaré Eri Kaneko. Plus de 3000 soldats américains sont arrivés en mer Rouge à bord de 2 navires de guerre dans le cadre d'un nouveau déploiement visant à dissuader l'Iran de s'emparer du pétrolier a annoncé lundi la marine américaine. Ce déploiement annoncé en juin par le ministère américain de la Défense vise à dissuader les activités déstabilisatrices et à désamorcer les tensions régionales causées par le harcèlement et les saisies de navires marchands par l'Iran. L'armée russe a affirmé aujourd'hui avoir visé un centre de commandement militaire ukrainien à Pokrovsk après que l'Ukraine l'a accusé d'avoir pilonné des bâtiments civils, faisant 7 morts dans cette ville de l'Est. Et puis les élections législatives en Pologne, un pays que dirige depuis 8 ans le parti nationaliste populiste Droit et Justice, se dérouleront le 15 octobre conformément au délai constitutionnel. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Mfa.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a salué les bonnes perspectives de l'économie de son pays avec une projection de taux de croissance de plus de 7% par an pour la période 2023-2025. En 2022, le pays a enregistré un taux de croissance de 6,7% en dépit d'un contexte mondial difficile marqué par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, a fait savoir le président ivoirien dans un discours à la télévision nationale dimanche soir. En Afrique du Sud, la ville portuaire et touristique du Cap est paralysée depuis plusieurs jours par une grève des taxis collectifs qui a pris une tournure violente avec la mort de 3 personnes, a annoncé la police lundi. Le Conseil national sud-africain des taxis avait appelé au débrayage la semaine dernière pour dénoncer un nouveau règlement qui donne à la municipalité du Cap le pouvoir de saisir les véhicules pour diverses infractions. En Tunisie, environ 200 boulangers-pâtissiers ont participé lundi à un premier sit-in d'une série de mobilisations pour dénoncer une décision de l'État les privant de farine subventionnée. Le président Kais Saied a récemment dénoncé une spéculation sur la farine subventionnée et son ministère du Commerce a interdit le 1er août à 1500 boulangeries d'en acheter.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
L'Afrique n'a plus de représentants au mondial féminin.
Oui, après le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est au tour du Maroc d'être stoppé en 8e de finale de ce mondial féminin. Les Lions de l'Atlas ont été impuissantes face à la France qui les a corrigés 4-0. Les Bleus ont assuré le coup en faisant la différence avant la demi-heure de jeu. 3 buts en 8 minutes de Diani à la 15e, Dali à la 20e et le sommaire à la 23e ont permis aux joueuses d'Hervé Renard de mener rapidement 3-0 et de profiter de la seconde période pour gérer. Eugénie Le Sommaire a enfoncé le clou d'une tête au second poteau à la 71e. Ce fut beaucoup plus serré entre la Colombie et la Jamaïque, mais les Colombiennes se sont qualifiées pour leur premier quart de finale d'une Coupe du Monde grâce à une victoire étriquée 1-0.
On connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale de ce mondial féminin.
Samedi à Brisbane, devant 50 000 Australiens, la France fera face au pays co-organisateur du tournoi, l'Australie. Toujours samedi, l'Angleterre, champion d'Europe en titre, fait face à la Colombie à Sydney. Bien avant, vendredi, l'Espagne joue contre les Pays-Bas à Wellington et le Japon défie la Suède à l'Eden Park d'Auckland.
Les Nigérians réclament le paiement de leurs primes.
Éliminés hier par l'Angleterre, les Super Falcons ont attendu la fin de leur mondial pour reprendre la bataille qui les oppose à leurs dirigeants. Elles exigent que leur fédération honore ses engagements et leur paie les primes et dépenses impayées. C'est ce qui ressort d'un communiqué du syndicat des joueurs, la FIFPro. Après avoir menacé de boycotter le premier match de la Coupe du Monde le 21 juillet face au Canada, les joueuses nigérianes avaient accepté de mettre leurs revendications entre parenthèses pour se concentrer sur le tournoi. Certaines primes et indemnités de stage et des dépenses remontent à 2021. Le Nigeria a participé à toutes les Coupes du Monde féminines depuis l'édition inaugurale en 1991.
Lauren James, désolé après sa lourde faute sur une joueuse nigériane.
L'attaquante britannique a présenté ses excuses pour la lourde faute commise sur la joueuse nigériane, Michelle Alozier, lors du 8e de finale qui lui a valu un carton rouge en fin de rencontre. Lauren James a exprimé sur Twitter, rebaptisé X, tout son amour et son respect pour sa concurrente sur laquelle elle avait volontairement marché pendant la rencontre remportée finalement par l'Angleterre au tir au but. Je suis désolé de ce qui s'est passé, a poursuivi l'attaquante du Chelsea, qui sera au moins suspendu pour le quart de finale des Anglaises contre la Colombie avant une possible sanction de la FIFA. En parallèle, les Lionesses ont publié un communiqué dans lequel elles soutiennent que Lauren est vraiment désolée pour son geste et pleine de remords.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les événements au Niger sont suivis partout dans la sous-région ouest-africaine, y compris au Sénégal, un des rares pays épargnés par les coups d'État, après deux putschs au Mali, deux autres au Burkina Faso et un en Guinée. Pour beaucoup de Sénégalais, cette toute dernière prise du pouvoir par des militaires en Afrique de l'Ouest montre les limites de la CEDEAO, le bloc sous-régional qui a brandi la menace d'une intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel. Les réactions à Dakar avec notre correspondant sur place, Seydina Abagaye.
Une intervention militaire de la CEDEAO au Niger serait une catastrophe pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'avis de Mansour Ndiaye. Pour lui, les interventions militaires antérieures de la CEDEAO n'ont pas été de franc succès, notamment en Sierra Leone et au Liberia.
Je pense que c'est une catastrophe pour tous les pays qui l'ont connu, hein. Notamment on peut voir dans plusieurs pays d'Afrique où la CEDEAO est intervenue à travers ses militaires. Je pense que c'est là qu'est partie une instabilité qui s'installe dans ces pays-là. Donc à mon avis, l'intervention de la CEDEAO est sans doute pas la chose la plus appropriée actuellement dans ce contexte.
Sadou Kane, un jeune manager d'entreprise, est du même avis. Pour lui, l'urgence n'est pas une intervention militaire, mais plutôt une profonde réflexion sur les causes de ces coups d'État répétitifs.
Et à côté des coups d'État militaires, je pense qu'il faut aussi condamner les coups d'État constitutionnels. Donc, raison pour laquelle je pense que personne ne peut être d'accord avec cette manière de faire. Mais je pense que il est temps aussi en Afrique, vu les coups d'État récurrents, de se poser les bonnes questions, d'identifier les causes et essayer de mettre en place des mesures préventives qui vont nous permettre d'éviter ce genre de situation.
Pour Charles, la CEDEAO a bien raison de faire valoir son autorité, car il y va de la stabilité de toute la région.
Dans la forme, je pense que la CEDEAO a raison, parce qu'il faudrait qu'il y ait une structure qui va au-delà des États, donc qui transcende les États et qui veille au respect du droit international pour que ceux qui doivent être aux bonnes places le soient. Après, ce qui pose problème dans l'attitude de la CEDEAO, c'est quoi? C'est la variabilité de leur réaction. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont pas armés et on n'entend pas de bruit de bottes aux frontières. On les voit pas prêts à intervenir. Donc on se pose la question d'une suprapuissance qui serait derrière peut-être la CEDEAO et qui demanderait à celle-ci de réagir.
Certains Sénégalais estiment que la CEDEAO devrait éviter l'escalade et respecter la volonté du peuple nigérien. D'autres estiment que face à la situation actuelle dans la sous-région, les acteurs politiques et publics sénégalais doivent éviter d'embraser le pays. Seydina Abagaye pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le Bénin, conformément à la décision prise par la CEDEAO contre la junte militaire au pouvoir, a décidé de fermer ses frontières terrestres avec le Niger, une situation qui entraîne de nombreuses conséquences, aussi bien pour les voyageurs que pour les importateurs. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
En riposte au coup d'État qui a renversé le président Bazoum au Niger, la CEDEAO a pris un ensemble de sanctions parmi lesquelles la fermeture des frontières à la frontière entre le Bénin et le Niger. Les conséquences sont visibles. Des centaines de camions garés avec des conducteurs irrités, mécontents.
Par rapport à notre situation ici maintenant, c'est très grave parce que frontière bloquée et nous les chauffeurs, nous sommes ici comme l'esclave. Tout est difficile. Et les marchandises maintenant, nous, par rapport à nous, c'est conteneurs. Il y a d'autres. Et là, c'est bâche, qu'ils ont, bâche, là, il y a des riz, il y a des spaghettis. Mais là, maintenant, il y a encore la pluie qui est en train de tomber. Maintenant, ça va gâter tous les marchandises.
Sincèrement, nous, on est là à peu près 6 jours ici. Bon, pour manger, pour avoir l'eau même, c'est toute une difficulté. Bon, on sait pas c'est quel jour ouvrir les frontières pour qu'on puisse partir.
Nous, là, quand nous sommes maintenant là, nous sommes là maintenant, la détention en train de nous frapper nos conteneurs. Donc, ça aussi, c'est un problème encore.
Chez les voyageurs qui veulent se rendre à Niamey et qui sont bloqués au poste de contrôle juxtaposé à Malanville, une ville dans le nord du Bénin. La colère est à son comble. Amidou pensait faire un voyage rapide vers le Bénin et retourner dans son pays, mais se retrouve bloqué à la frontière.
Puis vendredi passé, on est ici. Bon, on ne sait rien ce qui se passe au niveau de l'autorité de Bénin. Il n'y a personne qui vient nous dire ce qui se passe. On est là seulement, on vient de finir notre papier. Tout le Bénin contrôle, tout, on est fini. On est jusqu'au niveau de la frontière, au pont. Il nous a dit qu'ils n'ont pas nous donné autorisation de passer au Niger.
De son côté, Abdoulaye désapprouve les autorités béninoises qui n'ont pas donné de période de grâce aux voyageurs avant de fermer les frontières sous les injonctions de la CEDEAO.
Au lieu de rester un peu quelques temps, une semaine, trois jours comme ça, pour fermer la frontière. Celui qui est venu sur la route n'a qu'à rentrer, on va fermer la frontière. Au lieu de faire ça, on n'a pas fait ça. Nous sommes venus, en même temps, nous avons dit on a mis un embargo au Niger. Au Niger, là, on n'a pas donné de temps pour les gens qui doivent, et celui qui est venu, qui est bien sur la route, il va rentrer. Celui qui n'est pas venu n'a qu'à rester. On n'a pas fait ça. C'est pas comme ça qu'on fait.
La décision du Bénin de sanctionner le Niger fait aussi grand bruit dans le pays. Devant la polémique, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a déclaré que la diplomatie devrait être la solution privilégiée au coup d'État au Niger, mais réaffirme le soutien total de Cotonou aux efforts de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour résoudre la crise.
Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. Personne ne veut qu'on soit dans une situation en fait où la solution de l'usage de la force soit la solution qu'on retienne. On privilégie tous la négociation, on privilégie tous le dialogue en fait. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État ont donné cette période d'une semaine pour pouvoir engager des discussions et aboutir à une solution concertée de libération et de réinstallation du président Bazoum.
La communauté nigérienne au Bénin appelle le gouvernement béninois à la réouverture des frontières et à trouver une autre façon de régler les contentieux politiques que de sanctionner les simples citoyens. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, les réactions affluent après la publication lundi des résultats provisoires du référendum du 30 juillet dernier par l'Autorité nationale des élections. Si les défenseurs du projet de la nouvelle Constitution saluent une victoire écrasante, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution et une partie de la société civile parlent d'un non-événement et de données erronées. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Les réactions ont commencé à tomber juste après la publication de ces résultats où le oui l'a remporté avec 95,27% selon les résultats provisoires de l'Autorité nationale des élections. Évariste Ndamana, premier vice-président de l'Assemblée nationale et directeur national de la campagne référendaire.
Nous accueillons avec fierté et sérénité les résultats qui viennent d'être donnés par l'Autorité nationale des élections et nous sommes heureux de voir que le peuple centrafricain a opté massivement pour le projet de la nouvelle constitution.
Même réaction pour l'Union des forces démocratiques de l'opposition, UFDO, une plateforme de l'opposition qui soutient le projet de cette nouvelle constitution. Eddy Saint-Florien Parikouti, un des membres.
C'est vraiment une très grande fierté pour moi, en tant qu'un opposant démocratique dans mon pays, en République centrafricaine, qui a pris part à cette révolution constitutionnelle qui va libérer notre pays de l'esclavagisme, de tout ce qu'on appelle les crises perpétuelles dans ce pays. C'est vraiment une très 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 grande fierté pour moi et la fierté du peuple centrafricain.
Alors que ces résultats font réjouir dans le camp du oui, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016 dénonce une mascarade. L'ancien Premier ministre Martin Ziguélé, son porte-parole, parle d'un non-événement.
L'ANE n'a fait que mettre un peu la forme à des résultats qui étaient déjà diffusés sur les réseaux sociaux partout par les organes du MCU. Donc ça confirme que ce projet de constitution n'est pas du tout une volonté du peuple, c'est une mascarade. En tout cas, c'est un acte grave qui confirme la volonté du président Touadéra, ne l'oubliez pas, de rester président à vie. Tout le reste, c'est du cinéma. Pour nous, avant la proclamation, comme après la proclamation, c'est un non-événement pour nous, ça n'a aucun sens.
95,27% pour le oui contre 4,73% pour le non, un résultat qui ne surprend pas, ce selon l'avocat Bruno Yassin Biegba, membre de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture. Il s'interroge sur le taux de participation estimé à 61,10%.
Le 30 juillet, il n'y avait eu aucune mobilisation. Alors donc, dire qu'il y a eu 1 100 000 personnes qui ont voté et que maintenant, sur ce 1 100 000, il y a 95%, je conteste ce chiffre-là.
L'opinion nationale reste divisée sur ce référendum. Si de nombreux centrafricains accusent l'autorité nationale des élections d'être à la solde du pouvoir, l'institution en charge d'organisation des élections se félicite du travail abattu. Théophile Momokouama, porte-parole de l'ANE.
Ça, c'est une mauvaise blague. Vous vous souvenez que les mêmes critiques ont été élevées avec les élections de 2020-2021. Mais la plupart des gens qui font ces critiques-là sont élus avec ces élections-là. Ils siègent à l'Assemblée nationale. Ils ont une certaine notoriété politique par rapport à leur mandat électif dont les élections étaient organisées par la même ANE.
À compter du 7 août, date de publication de ces résultats provisoires, la Cour constitutionnelle a 15 jours pour rendre publics les résultats définitifs. Freeman Sipila, Bongui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Gabon, un peu plus de 800 000 électeurs sont attendus aux urnes le 26 août prochain. La campagne pour la présidentielle s'ouvre vendredi. Pour ce scrutin prévu le même jour que les législatives et les municipales, 18 candidats sont en liste, dont Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État sortant brigue un troisième mandat dans un processus électoral déjà controversé. Les récentes modifications de la loi électorale par le Parlement suscitent la colère de l'opposition et de la société civile. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Au siège de l'Union nationale à Libreville, la plateforme de l'opposition Alternance 2023 désapprouve l'idée d'un bulletin unique pour la présidentielle et les législatives. Cette proposition de l'organe en charge des élections accentue les critiques suscitées par la réforme du code électoral à quelques semaines des élections. François Ndomobian, président de la plateforme Alternance 2023.
Ce soi-disant bulletin unique n'est en rien comparable à celui proposé par l'opposition dont la vocation est de regrouper pour chaque type de scrutin tous les candidats en lice, comme il est d'usage dans les démocraties qui le pratiquent.
Si pour le CGE, cette réforme est une innovation devant permettre à l'État de faire des économies substantielles, mais pour Serge Abslow, candidat aux élections municipales à Libreville, l'absence de sensibilisation sur l'adoption du bulletin unique présente des risques d'un cafouillage contre-productif le jour du vote.
En dépit de ce qu'on veuille obliger les Gabonais à choisir un président par le truchement de leurs députés et vice-versa, ça pourrait tout à fait produire l'effet contraire que celui escompté par ceux qui sont à la manœuvre.
La réforme électorale querellée amplifie les inquiétudes des partisans du report des élections. Selon le Rassemblement pour le Gabon, il faut une transition politique pacifique pour éviter le chaos au soir du 26 août prochain. Laurent Nguemezui, président du Rassemblement pour le Gabon.
Nous prenons un temps au cours duquel nous tombons tous d'accord de dire, avant d'aller aux élections, arrangeons tout ce qui peut être source de division au sein du peuple.
Une transition politique comme moyen de prévention de la crise post-électorale, la démarche du RPG a du mal à convaincre la société civile gabonaise. Geoffroy Fumbula Libeka, acteur de la société civile.
Je pense simplement que ceux qui prônent la transition ou le boycott ne font qu'une chose, ils sont en train d'œuvrer de façon à ce que Ali Bongo puisse de nouveau passer avec le minimum de voix possible et en décourageant le maximum de Gabonais à aller au vote.
Les élections du 26 août promettent d'être un moment crucial dans la vie politique du Gabon. Les populations attendues aux urnes auront ainsi l'occasion de décider de l'avenir de leur nation en élisant leurs dirigeants pour les 5 prochaines années. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.